Parole tissée, c'est une émission sur la littérature et la poésie, présentée par Colavive, et c'est une émission de Gilles Presnitzer, diffusée le mercredi de 15h à 16h, et rediffusée le dimanche de 14h à 15h. Cette musique de générique est une musique d'Ernsplor. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une poétesse juive allemande, totalement inconnue en France, qui s'appelle Rose Ausländer. Pourquoi vous parler de Rose Ausländer? D'abord, parce qu'il y a un petit frémissement d'actualité. Parce qu'à l'agrégation d'allemand, pour 2006, Rose Ausländer est au programme, ce qui est très étonnant. 2 ans avant, c'était son ami Paul Celan qui était au programme. Donc, l'émission d'aujourd'hui s'appelle, en clin d'œil évidemment, Paul Celan, La Rose de Personne. Ma patrie est morte, il est enterré dans le feu, je vis dans ma terre maternelle, le mot. Ainsi parlait Rose. S'appelait Rose, Rose pour sa fragilité, Rose pour sa présence au monde. Le nom qu'elle portera après son mariage sera Ausländer, l'étrangère. Et Rose Ausländer aura été toute sa vie une étrangère. Elle, que l'on nommait la Rose de Bukovine. Elle, l'errante, elle, toujours au milieu de ses valises. Elle, la survivante. Puis, à bout de course, elle se laissera souffler comme une bougie. Silas, à 87 ans, le 3 janvier 1988, à Düsseldorf, dans une maison de retraite. Donc il y a, en fait, très peu de temps. Elle en avait tant vu et tant pleuré. Son histoire semble être le symbole du naufrage de ce qu'on appelait la Mitteleuropa, cette Europe du centre, de cette culture de l'Europe centrale qui a disparu dans les flammes et les camps de la mort. Elle est morte dans la maison de repos de Nelly Sachs. Sa sœur d'âme, Rose. Rose, la jeune fille insouciante, qui sera pourtant appelée à la barre des témoins de l'Holocauste. Elle jurera sur la tête de ses poèmes. La vérité sera dite, même l'insoutenable. Rose sera toujours allée un mot un peu plus loin. Elle aura fait de l'exil son pays et de sa langue sa mère. Elle disait ceci. Ils vinrent avec des drapeaux aiguisés et des pistolets. Ils abattirent toutes les étoiles et la lune. Aussi, aucune lumière ne nous est restée. Aussi, aucune lumière ne nous a aimés. Ici, nous avons enterré le soleil. Une éternelle ténèbre de soleil est venue. Rose semble avoir un destin bien trop immense pour elle. Elle l'a accepté, car elle se savait investie du devoir de témoigner. Sa destinée est exceptionnelle, étrange même, et sonne un peu comme l'ultime odyssée de cette Europe des Lumières et des écrits, qui déjà avait été mise à mal par la déflagration de la Première Guerre mondiale et qui sera achevée, décapitée par les nazis. Rose, elle fut. Elle tenta d'être dans ce monde où l'on avait mis les morts à table, comme disait Aragon. Et elle, frêle femme, portera le mot au plus haut. Rose, douce et ardente, rose de personne, rose de tous. Pour comprendre Rose, il faut lire ce qu'elle a dit vers la fin de sa vie, s'appelle Sans motif. Pourquoi j'écris ? Parce que les mots se dictent à moi, ils nous écrivent, ils veulent être liés, ils veulent être reliés. Mots, avec mots, une phalange de mots pour cela, et tout le reste contre moi. Ils s'enroulent dans les champs de papier pour que celui-ci soit un champ de bataille. Souvent je m'insurge, ne voulant pas me soumettre à leur dictature, et je les jette au vent. Ils deviennent encore plus forts, reviennent vers moi, me persécutent et grattent à ma porte. Jusqu'à ce que je cède. Ainsi, ils ne me laissent jamais en paix. Mais les mots ne sont pas les figures d'une fugue avec qui on peut voyager heureusement. Ils croient que je les ai mal compris. Eux auraient pu penser autre chose. Ils grognent qu'ils ne sont pas posés au bon endroit. Ils se tiennent sur les surfaces blanches. Ils se tiennent ainsi lumineux et sacrés, totalement en paix et non déplacés. Ceci est une illusion. Ils sont durs, même les plus tendres. Nous dévisageons, nous nous aimons. Mes arbres, mes étoiles, mes frères, je leur parle ainsi. Ils détournent le style, m'attaquent, me forcent de les jeter ça et là, jusqu'à ce qu'ils se croient arrivés à leur place consacrée. Pourquoi j'écris ? Parce que je cherche mon identité avec le clair langage des courbes sans mots. Cela me tient. Je suis tenu par les mots. Ceux qui veulent bien aller vers moi, je parle à moi avec eux, à toi. Je parle aussi pour que tu m'écoutes. Le monde me semble un questionnement obscur. Mes mots lui répondent cordialement par des questions. Ma vie à l'encre sympathique, c'est feuille, feuille à feuille. Des années que les vers se font avec le pourquoi et vers où. Mes mots veulent être mis en livre. Devoir et avoir. Tu dois nous avoir, disent-ils. Quand tu nous portes en livre, je résiste. Je pense à tant de poèmes et d'histoires et je n'en écris que des morceaux. Pourquoi ? Parce que les éclaircissements ne sont que des petits morceaux de la vérité. Pourquoi j'écris ? Parce que sans doute, je suis venu au monde à Tchernovitch. D'abord, une petite précision. Il n'existe à ma connaissance aucun poème de Rosa Slender traduit en français. Donc, tout ce que vous allez entendre est le fruit de mon approche, de ma traduction. J'ai traduit plus d'une centaine de poèmes, mais aujourd'hui, vous n'en écouterez que peu. Mais déjà, vous comprendrez la personnalité immense de cette jeune dame. Donc, ainsi, une petite femme, si souvent malade, qui aura été confrontée au grand tremblement de l'Europe du siècle dernier. Exil, séparation, ghetto, holocauste. Enfin, je préfère le mot Shoah, comme Claude Lanzmann, comme holocauste, qui a une signification trop religieuse. Maladie et solitude. Elle est absolument inconnue du public, mais elle est l'amie de Paul Celan et d'Anneli Zaks. Et elle devra une gloire tardive à un éditeur allemand, Helmut Braun, qui aura voué sa vie à elle, et surtout, c'est très paradoxal, à l'église protestante allemande, qui, ayant découvert ces textes, dans les psaumes du dimanche, disait ses poèmes à elle. La perte de sa patrie fut sa profonde blessure. Le nom, son nom, donné par son mari, devient son emblème. Elle sera toujours étrangère, émigrée de l'intérieur, et elle se sera reconstruite dans la langue des bourreaux, sa langue natale, sa langue mère, l'allemand. Elle fait partie de ces grands poètes juifs qui, en allemand, donnèrent chair aux choses indicibles. Paul Celan, Anneli Zaks, Ingeborg Bachmann, Elsa Lasker, Schüller sont ses compagnons, et nous les découvrirons ensemble. Rose est une sorte de nomade, les yeux grands ouverts, nomade permanent de la survie. Sa foi indéracinable dans le pouvoir magique du mot, dans l'humain et dans l'amour, lui ont permis de survivre au plus d'acier du mal et de la désolation. Elle a vaincu la mort, la maladie et surtout le silence. Ce silence qui tombe sur les survivants comme une perpétuelle culpabilité d'être encore là, honteux de vivre encore. Du « pourquoi moi ?» au « pourquoi pas moi ?» La route est longue et quelques-uns comme Primo Levi n'auront pas pu la suivre. Amis d'Anneli Zaks, rongée par les dialyses et la mort qui rôde, elle ira se réfugier dans la maison de retraite qui s'appelle Anneli Zaks à Düsseldorf, qui aura été édifiée grâce à l'argent du prix Nobel qu'a obtenu Anneli Zaks. C'est un curieux raccourci. Elle aura voulu et pu, même jusqu'à l'extrême vieillesse, ses derniers poèmes datent de 85-86 ans, écrire lumineusement dans cette langue noire qui dornait, qui jappait l'ordre de mort. Sa volonté fut de retrouver ce territoire étrange de cette langue, après l'avoir renié et tué en elle. Elle, qui pendant plus de 20 ans, n'écrira pas du tout en allemand, langue qu'elle aura repoussée, mais en langue anglaise. Entre souvenirs, angoisse et espoir fou, elle aura tissé plus de 3000 poèmes. C'est une œuvre considérable. Tout est publié en allemand. Et elle dira quand même « J'avais encore tant de choses à dire » dans un de ses derniers poèmes. Et un poème la résume tout entière. Je n'oublie pas ma maison paternelle, la voix de ma mère, le premier baiser, les montagnes de Bukovine, la fuite pendant la Première Guerre mondiale, l'invasion des nazis, les tremblements de peur dans les caves, le médecin qui nous a sauvé la vie, l'Amérique douce, amère, Hölderlin, Trakl, Celan, mes tourments de l'écriture, cette contrainte de l'écrire encore et toujours. Un autre poème qui s'appelle « Quand je partirai » est également significatif. Quand je partirai, le soleil continuera à brûler. Les corps du monde se déplaceront vers leur fondement en un point central que nul ne connaît. Toujours doux sentira le lilas, des éclairs blancs illuminent la neige. Quand j'irai au loin de notre terre oubliable, toi mon mot tu parleras. Une violette pour moi, laisse le rêve, vis ma vie jusqu'à sa fin. Rose était pétrie de bouddhisme, mais surtout de culture racidique. Et son approche du judaïsme, qu'elle aura retrouvée, on va un peu parler de sa vie, mais le judaïsme lui sera tombé dessus après l'expérience du ghetto. Elle l'aura surtout vue à travers des écrits de Gershom Scholem sur la Kabbale, etc., et surtout de Martin Buber. Et également de toutes ces études de philosophie qu'elle aura fait sur Spinoza. Et de Spinoza, elle aura retenu plus le déisme que le panthéisme. Dans tout cela, elle aura puisé force et courage avec toutes ces illuminations. Et parfois, on peut dire que Paul Celan ou Nelly Sachs ont plus de symbolisme juif qu'elle. Mais l'avantage de Rose Ostlander, c'est qu'elle est limpide. On peut la déchiffrer même sans la connaissance du symbolisme juif, tout apparaît clair, évident, urgent. Elle dit « La douleur est l'arbre des fruits amers. C'est aux sources de la douleur que peut être lue son œuvre. » Les titres, soigneusement choisis de ce recueil, donnent à eux seuls les clés nécessaires. Par exemple, « Derrière tous les mots »,« D'une contrée de fumée noire »,« Nous marchons avec les fleuves sombres »,« Le silence sur les lèvres »,« Les pas des cadrans de sable », Où est la patrie? Nous vivons à Babylone. Mon souffle est l'aujourd'hui. Ces mots qu'elle place en fronton sont bien l'image de ce que Rose a voulu dire, le secret muet des blessures, le murmure des deuils et des douleurs, la légèreté de l'espoir. Elle semble être cet enfant laissé seul après le passage des tueurs. Sa poésie dit la même prophétie que Janusz Korczak, ce pédagogue qui a refusé de se laisser séparer des enfants dont il avait la charge, et qui disait cette phrase extraordinaire « Ne pas laisser seul un enfant ». La poésie de Rose est pour l'enfant Rose, mais aussi pour tous les enfants du monde, et dans la langue perdue et non perdue, dans la langue sauvée, comme dit Elias Kaliti, elle aura parlé. Elle aura vécu une odyssée tourmentée pour enfin aboutir à son Ithaque à elle, la langue allemande. Cette langue qu'elle aura voulu tuer en elle en écrivant ses poèmes en anglais pendant longtemps. Et à un moment donné, elle ne pourra plus écrire en anglais. Elle essaiera de comprendre pourquoi, et l'appel de l'Europe la prendra, et petit à petit, elle réhabitera de l'intérieur la langue allemande, qu'elle avait complètement tuée, racine après racine en elle. Elle se définit ainsi. Gitane juive, à la langue allemande, élevée sous un drapeau jaune et noir, les frontières m'ont poussé dans la slavité latine-américaine. Europe, dans ton château, j'ai rêvé de ma prochaine naissance. Le drapeau rouge et noir est celui de la Roumanie. Elle fut cette errante qui ne survivait que dans sa foi absolue, dans la magie et la vérité du mot. C'est presque, j'allais dire, une incarnation de la Kabbale. Pour elle, le mot sauve. Elle semble également la moderne illustration du livre de Job. Tant de malheurs lui sont tombés sur la tête. Sa foi n'a pas reculé devant les épreuves et les malheurs, la maladie mise pour l'éprouver. Poème maintenant s'appelle « Tu es là encore ». Jette en l'air ta peur. Bientôt ton temps arrive, bientôt le ciel pousse sous l'herbe, tombent les larmes dans le rien. Encore le huet embaume, encore tu dois offrir les mots chéris. Tu es là encore. Deviens ce que tu es. donne ce que tu as. Et on a dit tout à l'heure le pourquoi j'écris. Et elle dit, parce que j'ai sans doute vu le jour à Tchernobyl. Tchernobyl, c'est cette ville assez extraordinaire de l'Empire austro-hongrois, qui est en Roumanie, qui est devenue la capitale intellectuelle de la Roumanie, qui était ce qu'on appelle une Sprachinsel, c'est-à-dire un petit îlot où la langue dominante, qui était la langue roumaine, n'avait pas cours. On parlait allemand. Donc c'était presque de l'exotisme. Elle dit la chose suivante. J'ai vu le jour Tchernobyl et le monde est venu à moi Tchernobyl. Tant de paysages particuliers, d'hommes particuliers, les contes et les mythes flottaient dans l'air, on les respirait. La ville de Tchernobyl, en quatre langues, cinq avec le yiddish pourrais-je ajouter, était une ville musée qui aura donné tant d'artistes, poètes, de philosophes, de plasticiens, et qui voulait parler avec les muses, s'exprimer en allemand. Donc elle était née en fait Rosalie Beatrice Ruth Scherzer, le 11 mai 1901, à Tchernobyl. Dans cette Bukovine, qui était donc ce petit village, une ville, pardon, allemande du peuple roumain. Et entre les deux guerres, cette ville aura été un cocon qui aura donné je ne sais pas combien de peintres et de poèmes. Je vous jette à embrasser comme ça, par exemple, des noms qui sont tous nés, qui ont tous vécu à Tchernobyl. Brancusi, le sculpteur, Aaron Appelfeld, dont nous parlerons bientôt, Paul Celan, Itzik Manger, le grand poète yiddish, Emmanuel Weissglas, également poète yiddish, Alfred Kittner, Georg Drogowski, Moses Rosenkranz, Gregor von Retzori, Konstantin Brunner. Et juste à côté, Tzara, puisqu'on parle de dadaïsme actuellement, et Benjamin Fondan. Cette capitale, la Bukovine, c'est comme un fantôme dans la mémoire européenne. Il y avait 50 000 juifs qui vivaient en Roumanie. Quand l'armée rouge ouvrit le ghetto, il n'y avait que 5 000 qui avaient survécu. Rose était née dans une famille juive de langue allemande depuis des siècles. Et c'est très curieux. Le centre de la ville parlait allemand et dans les banlieues de l'autre côté du fleuve, c'est le fleuve Prout, on parlait yiddish. C'était vraiment deux classes sociales différentes. Et elle venait un peu de la bourgeoisie. Et dans ce monde bientôt englouti, il y avait une sorte de merveilleux équilibre précaire où les gens, parlant à peu près que l'allemand, pouvaient créer un univers complètement en marge. Et c'était une oasis paradoxale et chacun avait la notion précise que tout allait disparaître. Ce n'était pas bien sûr la joyeuse apocalypse de Vienne, mais plutôt une oasis de douceur et de pensée qui se sachait mortelle. Et contre les violents efforts d'assimilation des autorités roumaines, qui en plus étaient fondamentalement antisémites, ce petit îlot tenait bon. Voilà ce que dit Rose, par exemple. Tchernobyl, avant la Seconde Guerre mondiale, paisible cité de collines, cernée de forêts de hêtres, des sols le long du Prout, des radeaux et des nageurs, lilas de mai à profusion, autour des réverbères, des hannetons et leurs danses de mort. Quatre langues se comprennent, parfument l'air, jusqu'aux bombes, elle respirait heureuse, ma ville. Cette langue de la cinquième, dont elle parle très peu, est la langue yiddish. Et on n'a quasiment aucun texte de Rosa Slender en yiddish. Elle le comprenait un peu, mais comme Paul Celan, c'était l'allemand qui était sa langue. Et je retrouvais en farfouillant dans les lettres qui nous sont parvenues de Rosa Slender une mélodie yiddish. Et elle l'a écrit à New York en 1947. Pour ses amis qui étaient restés à Bucarest, sauf que Bucarest était tombé de l'autre côté du rideau de fer, s'appelle « Aux amis si loin ». Sur une pierre, je suis assise triste. Les amis sont loin et le temps ça va si vite. Là-bas, on danse pour la fête et la célébration. Je me chante pour moi tout seul ce chant en silence. Une lettre vient de loin. De joie, je pleure et je ris. Là-bas, on me pleure. Pour ces jours bons et lumineux, il viendra bien le temps du Messie, et il abolira le lointain. Chante cette mélodie, elle est si simple, je vous ai perdu. N'ayez point honte, au nom des larmes surgissent une célébration. Laissez-les toutes aller danser, eux ensemble, moi tout seul. Notre chanson ne s'arrête jamais. Elle surgit au milieu du banquet pour nous hanter. C'est très curieux de voir d'ailleurs qu'elle retrouve un peu les accents de Gaby Hirtich. Donc, c'est le seul texte que nous ayons de Rosa Slender en yiddish. Donc, c'est son rapport à la cinquième langue qu'elle a voulu occulter. Et elle aura tenté, mais qui peut maintenant s'en rendre compte, de faire comprendre ce que fut cette vie à Tchernobyl, ses auteurs, cette grâce, ce monde englouti qui aura tournoyé sur lui-même comme un trou noir qui s'éteint. Ce sera son âge d'or de l'enfance. Et l'enfance compte fondamentalement dans l'esprit de Rosa Slender. Et ceci, mélanger la patrie perdue et l'exil, auront sacralisé cette vie à Tchernobyl qui sera devenue pour elle une légende, alors qu'elle a eu faim. Elle a été pauvre aussi là-bas. Ce qui nous reste pour comprendre cette ville reste la littérature. En juillet 1941, les nazis s'emparèrent de cette ville. Et immédiatement, le jour d'après, ils auront installé un ghetto pour les juifs, en ayant préalablement massacré, avec l'aide des supplétifs roumains, des hordes roumaines, tout heureux de se jeter dans le curé, 3000 juifs. Ils ont commencé par cet acte fondateur. Ce sont des jours de bûcher d'horreur, et Rose a écrit ceci. Ils vinrent, firent griller nos vêtements et notre peau. Ils vinrent pour brûler notre sang. Nous étions les bûchers de notre temps. Ghetto et départation, avec les appels pour ces trains vers la mort, seront le nouvel horizon des 50 000 juifs entassés les uns sur les autres et attendant chaque heure la mort. Chaque bruit était guetté. Et les nazis pouvaient commencer leur travail de déshumanisation. Parqués, devenus des animaux, ne pensant qu'à survivre un jour de plus, une heure de plus. Les juifs de Tchernobyl, comme ceux des autres ghettos polonais ou ukrainiens, allaient vers l'anéantissement. Et Paul Celan, Aaron Appelfeld et Rose Auslander sont pris dans cette horrible nasse. Pendant 3 ans, Rose essaiera de survivre. Elle fera un travail forcé dans une usine. Elle sera toujours fuyarde dans les caves parce que son nom était prononcé dans les lieux pour la déportation. Et ce qui est émouvant, ce qui m'a toujours profondément ému, c'est qu'elle prendra tous les risques. Il y avait des capots. Il y avait également des miliciens juifs qui dénonçaient les leurs. Et il ne fallait pas bouger, il ne fallait pas sortir, il fallait vivre dans une cave pour ne pas toucher. Et elle bougera. Elle prendra tous les risques pour aller, avec son étoile jaune, cette marque d'infamie, écouter un tout jeune poète qui disait ses textes dans les cachettes. C'était Paul Hanschel, dont le nom sera Paul Celan. Et c'était cette grande voix qui les aura maintenus en vie. Côte à côte dans les caves, ils disaient leurs poèmes. Elle dit, « Décoré de l'étoile jaune, je cours chez des amis montrer des poèmes de Celan, une heure d'oubli, de bonheur, avant que ne se ferment les portes sur nos rêves. » Rose écrit aussi, « Nous, les Juifs condamnés à mort, nous étions incroyablement demandeurs d'espoir. Et tout en attendant la mort, beaucoup d'entre nous habitaient dans les mots des rêves. Notre patrie rêvait dans notre perte totale de patrie. Écrire était notre vie, notre survie. » Ces rencontres en secret dans les catacombes, faites au péril de sa vie, simplement pour lire et entendre des poèmes, font honneur à l'humanité. Quand la poésie devient si vitale, quand l'espoir passe par les mots, l'inhumanité recule. Voici un témoignage de, par exemple, Aaron Appelfeld. Toute enfance est le fondement de notre être. Et Tchernobyl, c'est la ville de mon enfance. Il y vivait avant-guerre 50 000 juifs. Quand on y marche, aujourd'hui, ils n'y sont plus. Il n'y a plus que des fantômes. Les êtres et les livres y étaient reliés, me disait Paul Celan, qui venait aussi de cette ville. Il y a eu quantité d'artistes venant de cette petite ville, comme Rosa Slender, poète moins ésotérique que Celan. J'étais témoin, avec mes petits yeux, ceux de mes parents, de toute cette beauté. Rose arrivera en 1945, l'arrivée des troupes allemandes. J'ai un peu raccourci, j'aurais dû dire également cet incroyable concours de circonstances malheureux qui fait que Rose était coincée dans ce ghetto. C'est qu'elle a fait ses études à Bucarest, Elle a été très influencée par Constantin Brunner, qui était son professeur de philosophie, donc c'était Spinoza. Et pour échapper à l'emprise énorme de sa mère, elle a eu l'idée de prendre le premier gars assis à côté d'elle, le premier étudiant, de dire « on s'en va », de l'épouser aux États-Unis. Elle a vécu à New York. Donc, elle était américaine à un moment donné. Elle était petite agent d'assurance, elle vivotait. Elle essayait de se faire une vie de rêve américain. Bien entendu, ça n'a pas duré longtemps avec, j'allais dire, son mari de circonstance. Et donc, elle vivait de plus en plus malheureusement. Et ensuite, les appels sans arrêt de sa mère qui lui disait « Je suis malade, je suis agonisante, viens, viens. » Ce qui n'était pas tout à fait vrai. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arrive, elle cède au chantage, elle arrive à nouveau à Bucarest, puis à Tchernovitch, et quelques jours après, les Allemands arrivent. Donc elle est prise au piège. Elle en ressort donc en 1945, elle veut oublier tout ça, elle se rend à Marseille, de là à New York. Et sa mère, qui l'avait quelque part entraînée par là, mourut en 1947. Donc Tchernovitch est bien sa mémoire brisée. Tout est disparu, fantomatique. Et seuls les écrivains portent encore témoignage. Cette civilisation, il y a quelques vieux juifs roumains à Tel Aviv ou à Jérusalem qui s'en rappellent encore au moment où je vous parle. Donc pour elle, écrire était vivre. Et par les mots écrits, elle, l'exilée perpétuelle, la femme toujours entre deux trains, se créa une deuxième patrie. Juste une anecdote. À un moment donné, une vague connaissance familiale devait l'attendre à la gare parce qu'elle allait de pays en pays, de ville en ville, et demandait « Mais je ne l'ai jamais vue. Comment vais-je reconnaître Rosa Slender ?» On lui dit « Oh, c'est pas grave, c'est une vieille dame qui a une pile de valises. » Effectivement, il a reconnu une dame au fond du quai qui avait une pile de valises. Toute sa vie, toutes ses possessions, tout son territoire était dans ses valises. Et elle dit d'ailleurs qu'elle s'est créée une deuxième patrie. « Ma patrie est morte, il est enterré dans le feu. » Je vis dans ma terre maternelle, le mot. À New York, elle fait un renouveau littéraire. Elle avait déjà publié, j'ai oublié de dire qu'elle était déjà célèbre. Elle était aussi connue que Paul Celan. On l'appelait le Rossignol de Bukovine. Ses textes étaient publiés en allemand. Ils étaient publiés même en Allemagne et en Roumanie. La première chose que feront les nazis, c'est bien sûr de tout brûler. Donc, elle était célèbre. Et elle tire un trait sur tout ça pour se lancer en langue anglaise, à faire des poèmes, grâce à la découverte d'amis qui lui feront connaître Cummings, qui est un grand poète américain, William Carlos Williams. Mais, aussi mystérieusement qu'était apparue l'inspiration en langue anglaise, faite du refus de la langue maudite et du besoin de terre vierge, aussi brusquement, la langue anglaise va se tarir pour elle. La nostalgie de l'Europe va pousser profondément sur elle, en elle. Et un jour comme cela, elle est complètement impuissante. Elle ne peut absolument plus penser poésie en anglais. Et dans ce doute et cette stérilité totale, l'ange Paul Celan, qu'elle avait croisé dans ses caves, dans ce ghetto, va à nouveau apparaître. Paul Celan qui venait à peine d'être redécouvert en Europe, c'était Todesfugue, le poème qui aura marqué toute la conscience occidentale. Et elle le rencontre en 1957. Elle lui montre ses poèmes. Paul Celan n'est plus le même. C'est plus le dragueur, le tombeur, le séduisant poète Tchernovitch. Mais c'est devenu un visionnaire qui a su parler de la Shoah et qui a changé complètement la poésie moderne en faisant un acte poétique très curieux, en obligeant la langue allemande à prendre les tournures de la langue hébraïque. Il a plaqué quasiment la forme de langue hébraïque, qui est une langue granitique, une langue dure, sur la langue allemande qui l'a fait éclater par la même. Et là, Rose a donc la révélation qu'il est possible d'écrire dans la langue des bourreaux, de dire ainsi l'indicible. Elle, qui était influencée par Rilke surtout, Hölderlin Trakl, elle est bouleversée. Elle oublie tout ce qu'elle avait écrit. Et comme Celan, elle se met à l'écoute des obscurs des mots, des formes courtes et prophétiques. On va en avoir quelques exemples. D'abord, un poème, In Memoriam Paul Celan. Ma mère, ma blonde mère, jamais ne revint. Paul Celan a vu sa mère déportée à Tchernovitz. Jamais ne revint la mère, jamais abandonnée par la mort, de soleil nourri, avec du lait noir. Elle se tenait en vie. Ceci se noya dans l'encre du sang. À travers des buts discrets, le mot du rien brillant dans la pièce vide. Un autre poème qui s'appelle « Un instant ». Rares d'ailleurs sont les poèmes de Rose qui portent un titre. « En un instant ». Si je savais tous les noms contenus dans cet instant, la voix de l'enfant dans le vieillard, le murmure de la ville s'en va au-delà des frontières, un malentendu de pays en pays. Mon oreille se noie dans le flot des paroles. Maintenant tu es mort, quand vas-tu naître ? Tout pleut en cet instant. Notre poème qui s'appelle « Je me souviens » et qui montre le poids immense de ce que fut l'enfance à Tchernovitz pour Rosa Slender. Je me souviens des parents qui m'ont abrité des jouets et des jeux d'enfants, à la joie et à la peine du premier amour, à Venise, à Lucerne, Riviera, Israël, et Hölderlin, Trakl, Kafka et Celan, au ghetto et au convoi de la mort, faim et angoisse, à la chute du lien éternel aux amis qui m'ont quitté et aux hommes qui sont restés près de moi. Je pense à l'offrande de mon corps, à la force de la pensée, à la magie des mots et la magie de la vie. La mort à l'affût, pense à moi. Un petit poème qui s'appelle « Notice biographique ». Je parle depuis la nuit en feu que le Prout a effacée. Le Prout, c'est donc le fleuve de Tchernovitz. Du sol pleureur, des livres de sang vont taire les champs des rossignols, des étoiles jaunes, pour lesquelles nous mourions d'heures en heure sur les potences. De Rose, je ne parle pas. Fuyant sur une balancelle d'air, Europe, Amérique, Europe, je n'habite pas où je vis. À partir donc de cette rencontre fondatrice avec Paul Celan, ces images, ces mots même, tout aura changé. C'est une nouvelle poétesse qui voit alors le jour. Et cette nouvelle naissance et celle qu'avait déjà vue un peu Nelly Sachs, Celan est quelqu'un qui est béni par Bach et par Hölderlin et qui est béni par les Racidines. C'est comme ça que Nelly Sachs parlait de Paul Celan. Donc cette écriture de Rose, bientôt travaillée de l'intérieur par la flamme noire de Celan, devient autre chose. Elle devient une sorte d'écriture très renversée, très compacte, mangé un peu par l'espace blême de la page blanche et du silence. Le mot prend un rôle fondamental, messianique. Seul le mot peut rendre compte du monde. Et d'ailleurs, Rose parlait souvent de la Muttersprache, c'est-à-dire la Mutterland. Elle ne dit pas Heimat, elle ne dit pas patrie, elle ne dit pas de mon territoire, tout ça, elle dit ma patrie et le mot. Et donc, en allemand, ces mots reprenaient une densité, une assurance. Et elle oubliait par là même, ou les faisait revivre, les cruautés, les chasses à l'homme. Et elle redevenait fidèle à la maison perdue, à son enfance. Et donc, en 57, c'est une nouvelle poétesse. Et elle quitte tout ce qu'elle avait en surnuméraire, c'est-à-dire le pathos, les coquillages de l'expressionnisme, pour une nouvelle langue qui devient très musicale, très simple. Au niveau du vocabulaire, c'est un grand plaisir de traduire Rose Ostlander, parce que tout semble couler comme de l'eau entre les doigts, c'est très beau. Elle abandonne les rimes qu'elle faisait avant pour le choc des mots. Elle recherche des images fortes. Mais cette poésie-là reste dans les tiroirs. Elle sera totalement ignorée. Et en plus, en 1972, avec ses maux de reins, ses problèmes, elle devient gravataire. Et elle doit être hospitalisée. Elle est conduite à la maison de retraite, Nelly Sachs donc. Et là, plus personne ne sait qui elle est. Elle est une malade parmi d'autres malades, une pauvre dame de plus en plus âgée parmi d'autres dames de plus en plus âgées. Elle refuse de regarder la télévision. Elle refuse d'aller à la synagogue totalement. Elle est là, seule, face à son mur blanc, avec parfois des blocs de papier qu'elle écrit frénétiquement. C'est alors qu'une drôle de chose se passe. Un très jeune homme nommé Helmut Braun, en 75, dit « Je vais me lancer dans une nouvelle collection de poésie. » Mais la plupart des choses ont été écrites. Il voulait, effectivement, se lancer dans Paul Celan aussi. Mais c'était fait. Alors, par un pur hasard, en retrouvant des revues d'avant la Seconde Guerre mondiale, il trouve des textes de Rose Ostlander. Il apprend qu'elle est tout près de chez lui, elle est à Düsseldorf. Alors il va la rencontrer, à partir de là, les destins se nouent ensemble. Elle a 74 ans quand il la rencontre. Il est fasciné. C'est inconnu, totalement inconnu en ce bas monde. Si on n'est pas connu en Allemagne, quand on est poétesse allemande, on est inconnu partout. Il publie d'un seul coup 6 livres, et à tout petit tirage, 125 exemplaires. Et elle deviendra une des grandes poétesses allemandes. Et je vous ai dit que comment la communauté protestante l'a aidée aussi. Et l'Allemagne commence à la célébrer. Elle est toujours gravataire. Elle est toujours un peu dans son coin, un peu coquette. Des fois, elle se met du vernis à ongles, mais la vie est ailleurs. Les prix littéraires lui tombent dessus. Mais ça la laisse indifférente. Helmut Braun, qui fera sa biographie, l'oblige quasiment à réviser, publier tout ce qui restait de son œuvre. Et dans le ghetto de sa chambre, elle tisse, elle retisse le temps et la vérité du monde. Malgré la souffrance, parce qu'elle souffre beaucoup de ses diverses maladies, et la proximité de la mort, elle sculpte de la lumière, parce que ses mots sont totalement lumineux. La plupart de ses poèmes auront été écrits dans cet hôpital, entre deux toilettes, deux dialyses, et des milliers de solitudes. La nature qu'elle aimait tant, le fleuve Prout, là, qu'elle entendait encore à ses oreilles, ce n'était rien, c'était simplement l'eau dans laquelle on avait les malades. Le parc, elle ne le voyait plus que par la fenêtre. Le bruit, c'était les pas dans le corridor, un téléphone qui sonne. Elle se redresse, croyant que c'était pour elle, mais non, elle n'existe pour personne. Et à côté, les télévisions qui gueulent, qui hurlent, elle qui veut le silence. Elle reste seule. Et nul ne prêtera attention à cette vieillarde un peu folle qui semble raconter des histoires de notre temps. Elle n'y voit presque plus, elle a une loupe énorme, et avec ça, elle essaie de corriger ses mots, les soupeser, les abandonner. Il faut dire que Rose Ostlander a une façon d'écrire particulière. Elle écrit de façon compulsive, dans un seul jet. Pendant la nuit, elle peut écrire pas mal de poèmes comme ça. Mais ensuite, elle va passer des années à tout corriger, à tout repeser, à tout soupeser, à abandonner pour que ça prenne une densité totale et que tout le superficiel soit abandonné. Elle est donc ce poète couché depuis 1972-77. Elle se définissait, moi je suis la poétesse au tuyau, je faisais allusion bien sûr à ses perfusions. Et tout à coup, elle n'écrivait quasiment plus, elle faisait que recorriger, il y a une sorte de regain, de reverdi. Et elle écrit tout à coup, et elle appelle un journaliste littéraire, qui s'appelle Raymond Hogg, qui avait entendu parler de ces vieilles dames dont on parlait en bien, mais on ne savait même pas si elles étaient vivantes ou mortes. Et tout à coup, on l'appelle au téléphone, il se dit « Zut, je vais faire une visite, elle est vivante, et en plus, il va falloir que j'aille entendre les dires d'une vieille folle. » Il se rend quand même par pitié. Et là, il a la stupéfaction d'entendre Rose lui dire ses ultimes éclats poétiques. Il prend sous la dictée des pans d'éternité arrachés au silence et à la douleur. Elle, qui avait peur des visites, elle les refusait, parce qu'elle avait la pudeur de ne pas se montrer dans son état. Elle, cette fois-ci, les aura désirés uniquement pour pouvoir dicter, pour parler, pour épancher les dernières écritures faites sur un petit bloc-notes au cours de quelques nuits. Et c'est assez extraordinaire de voir un poète qui, en 85, hein, c'est 3 ans avant sa mort, sa mort à 87-88 ans, Son livre s'appelle « Je compte les étoiles de mes mots ». Ce sera sa dernière œuvre. Elle qui croyait avoir tout terminé, elle disait « Maintenant j'attends ma fin, les mots sont finis pour moi, et seule la mort respire si sûrement. » Et quand on lui demandait « Mais qu'attendez-vous donc de la vie ?» elle répondait simplement « Rien, mais j'aime vivre, alors je continue. » Puis le 3 janvier 88, la grande errance, la femme aux valises, elle posera enfin ses dernières valises dans la gare de la mort. Ensuite, une gloire tardive l'accompagne maintenant. En Allemagne et en Israël, où elle commence à être reconnue. Et maintenant, on va essayer de redire encore quelques poèmes de Rose Ostlander. Je compte les étoiles de mes mots et me vaux la nuit. Tu marches dans la ville noire avec tes pieds blessés. Sur la hanche, la mort te touche. Sois ton mot fidèle, il ne t'abandonnera pas. Découvrir un chant, cela veut dire venir au monde et courageusement chanter de naissance en naissance. Ami, n'oublie pas que nous avons voyagé ensemble, gravi des montagnes, cueilli les framboises. Nous sommes laissés porter par les quatre vents. N'oublie pas que c'est ensemble, notre monde, le non partagé comme le partagé, qui nous laisse fleurir, qui nous anéantit, ce monde déchiré et non partagé, dans lequel, ensemble, nous allons. Poème qui s'appelle « Ne le sais ». Pourquoi j'ai vécu jusqu'à maintenant ? Ne le sais. Mon souffle continue encore. Quand arrêtera-t-il d'écouter la langue jaillissant de la fontaine devant ma fenêtre, peupliers verts flamboyants, aboiement des chiens et cloches du dimanche, des bruits confus de voix de merle, des guerres fratricides, sang sur sang, la douleur dans les dents, dans le cerveau martelé. Ah, l'âme désavouée, pourquoi là ? Je ne sais. Laissez-moi. Rien ne sait. Poème qui s'appelle « Qui ?» Qui ? Qui se souviendra de moi quand je partirai ? Seuls les moineaux que j'ai nourris, pas les peupliers devant ma fenêtre. Le parc du Nord non plus, mon voisin vert. Mes amis seront tristes une petite heure et m'oublieront. Je reposerai dans le corps de la tête. Elle me changera. Elle m'oubliera. Un poème qui s'appelle « Frère ». N'oublie pas, nous sommes frères d'une énigme au fond des âges. Nous vivons dans un cercle plein de coins. Sur la face du monde, je colle l'étiquette de la beauté. Mon mot, j'appelle le tien, car nous sommes frères du néant, de l'éternité. Passion d'Emmanuelia, tu te sépareras. Et aussi des oiseaux jubilants, de ta maison et de tes mains qui l'ont rendu habitable, de la tenace habitude de cligner des yeux avant de les fermer quand le rêve t'appelle. Des mots qui t'ont créé, tu te sépareras de ton ombre, qui toute ta vie durant traquait dans la lumière. La terre ne se séparera pas de toi et de ton amour pour elle. Découvrir un chant, cela signifie venir au monde, et courageusement chanter de naissance en naissance. Donc la voix de Rose Ostlander est très originale. Elle n'appartient qu'à elle. C'est pas d'Elisac, c'est pas Paul Celan, c'est pas les autres. Parce que sa voix est translucide, elle est fragile, on dirait presque des petits poèmes chinois ou japonais comme des haïkus. Elle est allusive, elle est mélodique. Et tous les mots semblent en suspens et le sens flotte comme il peut au milieu. C'est pour ça que traduire n'a pas été une chose aisée, parce que c'est des ailes de papillon. Un mot de trop, un mot à côté, et tout se casse. Cette poésie est très arachnéenne, très aérienne. Rose, donc, n'a pas le souffle épique, ce n'est pas des épopées, ce sont des, j'allais dire, des choses essentielles. Et là-dedans, elle vit par des visions intérieures. La plupart des thèmes sont toujours présents. C'est l'enfance, la jeunesse en Roumanie, la perte de sa mère et surtout de la Bukovine, la judaïté, le besoin d'invoquer sans arrêt la Shoah, mais de façon allusive, les poèmes de l'exil, la construction d'une patrie poétique dans les mots, puis la vieillesse, la solitude, les souvenirs, la mort qui approche. Elle lisait cette phrase qui parle pour elle, « Le rêve a les yeux ouverts ». Et au soir de sa vie, Rose définit son œuvre et sa vie comme ça. C'est un poème que je vais vous redire tellement il m'intéresse. Je pense aux parents qui m'ont gâté, joué aux jeux d'enfants, aux plaisirs et aux tourments, de mon premier amour à Venise et à Lucerne, à la Riviera, à Israël, Hölderlin, Trakl, Kafka, Ceylan, au ghetto et au convoi de la mort, à la faim et à l'angoisse, à l'accident, au lit pour toujours, aux amis qui m'ont abandonné, aux êtres qui me soutiennent. Je pense à mon corps sans force et la force de la pensée, aux paroles enchantées et l'enchantement de la vie. La mort qui me fait signe pense à moi. Ceci est une deuxième version du poème que je vous avais lu auparavant, où elle décrit ce qui aura été les lumières de sa vie. Elle adorait Venise, l'Italie. Elle adorait la Suisse avec Lucerne et Israël où elle est allée. Et en même temps, ce corps cassé se projette toujours en avant. Elle, qui n'a jamais eu d'appartement, son appartement fut son lit d'hôpital. Elle n'aurait été que valise. Et dans cette valise, il y avait son petit viatique d'errant de déporté. Mais avec ces quelques mots, elle a réussi à faire un monde. Et il y a un poème de Paul Celan qui la décrit. C'est de Donc de Paul Celan. Parle, mais sans séparer de le nom du oui. Donne aussi le sens à ta parole, donne-lui l'ombre, donne-lui assez d'ombre, donne-lui autant d'ombre que tu en sais partager autour de toi, entre midi et minuit, et midi et minuit. Rose a su faire cela, et elle répond ceci. J'ai trouvé un mot qui ne pleure pas. Les autres portent le deuil de la perte de la patrie. Et donc, dans cette œuvre limpide comme une source, Rose aura fait plus qu'un journal intime, j'allais dire, des Juifs. Elle aura magnifié, entouré d'arc-en-ciel et de lumière, avec une sorte de châle de prière par les mots, toute une judaïté. Ces sons, cette musique, ces sonorités mouvantes et presque liquides, frémissantes, et avec des silences, parce qu'il y a beaucoup de blanc entre les mots de Rose, il y a des rythmes, il y a des assonances, disent simplement la chose suivante. Je suis jeune de plus de 5000 ans, et Rose est aussi jeune que ça. Elle était nourrie de Bible, de Talmud, de légendes juives, de mystiques juives, et cela s'entend. Elle était en fraternité absolue avec le peuple juif. Si elle se défie du messianisme, la patrie des mots partagés, son seul espoir d'éternité. Son messianisme à elle est dans les mots. Radio néant, Dieu ou la mort, elle ne veut pas le savoir. Elle est réfugiée dans la forteresse d'espérance des mots et de la poésie. Je vous prends au miracle du mot qui travaille le monde au corps et va créer d'autres mondes. Affamés de patrie, nous enterrons notre mort quotidienne dans les mots qui seront notre résurrection. Elle aura réussi à rendre visible la tragédie et transmuer l'horreur en renaissance des mots. Contre tout espoir bafoué, contre le néant, l'abandon, elle l'écrit. Elle écrit comme une petite fille qui écrit en cachette. Tout peut être dit selon elle. Elle gagne cette guerre contre la muraille des mots, contre les oppresseurs. Elle aura donc mis sur son papier, petite fille, vieille dame, tout un chapelet de mots qui auront fait une vie. Elle écrivait dans sa tête, comme Mozart d'ailleurs écrivait la musique dans sa tête. Elle ne les mettait ensuite sur papier qu'après les avoir fait tourner et retourner. Et ensuite elle disait, je teste les mots courts, les mots longs, jusqu'à ce que ce soit des mots vibrants. Et toute la poésie de Rose est surtout vibration, vol de papillon. Dis tout simplement, quand je suis désespérée, j'écris des poèmes. Quand je suis heureuse, les poèmes s'écrivent en moi. Sa seule était étoile du Nord, était son étoile jaune, était son intuition. Rose, rose, elle est là, intuitive et naïve, rose et rosée. Par son fin petit travail de polisseur, elle fait apparaître la douceur et les roses. Sa poésie reste liquide et ses mots deviennent plus légers que les morts et les fantômes. Rose Ostlander restera tout le temps cette petite fille se souvenant de la Bukovine. Même sur son lit de vieillarde, elle aura ce regard presque innocent sur les tragédies du monde, ce qui la rend si attachante. Mais aussi cette volonté farouche de vouloir écrire après l'extermination dans un monde maudit. Je chante la chanson défendue de la pomme qui nous a tout appris avant la naissance. Elle est là où les vaches de Chagall broutent les prairies de la lune et où les loups dorés protègent les agneaux, c'est-à-dire dans une sorte de pays, le pays d'or, de rêve et de miel et de lait. Elle aura fait une sorte de Jérusalem en elle, de pays merveilleux de Canaan, par ses mots. Nous nous sommes retournés chez nous sans Rose, sans rester à l'étranger. Nos jardins reposent sous terre dans le cimetière. Le multiple s'est transformé en multiple. Nous sommes devenus des épines dans des yeux étrangers. Mais Rose aura triomphé des bourreaux. Elle vit désormais dans le mot des hommes, loin des couteaux, loin des flammes. La fille du mois de mai aura fait le printemps. La petite fille, la petite fiancée de l'espérance est enfin posée. Elle nous aura simplement appris un seul mot. Fait du désespoir un mot de renaissance. Dors bien, Rose. Les roses refleuriront toujours. Lorsque je déploie le châle bleu pâle vers le sud, Jérusalem m'envahit avec temples et chants sacrés. Je suis âgé de plus de 5000 ans. Mon châle de prière est une balancelle quand je ferme mes yeux vers le sud. Jérusalem dévale des collines, jeune de 5000 ans, et m'envahit dans une arôme d'orange. Nous avons un jeu dans l'heure. Ô mes contemporains!